Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club sur France Inter, 22h, 23h, le rendez-vous avec toute la scène française et plus ses affinités. Soirée de Noël et déjà un cadeau ce soir, Adamo est notre invité. Adamo qu'on a rencontré au centre Wallonie-Bruxelles, de passage à Paris, les poches pleines de son coffret CD 1962-1975. C'est bourré de tubes et ça raconte une histoire de la chanson de cette période. Le positionnement aussi d'Adamo en pleine période Yéyé, un chanteur décalé, auteur, compositeur, interprète, quand ses collègues de Salut les copains reprenaient, à l'époque, les succès anglo-saxons. Adamo nous a consacré une heure d'entretien, les yeux dans les yeux, soirée tombe la neige sur France Inter.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
On est en été 1963, drôle de saison pour sortir ce titre qui est devenu un tube planétaire. Adamo avait tenu tête à ses producteurs qui voulaient bien sûr attendre l'hiver pour lancer « Tombe la neige ». Bref, une contre-programmation à l'époque. Aujourd'hui, elle est de circonstance sur France Inter.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Solitude, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir.
Salvatore Adamo, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
On est ici au centre Wallonie-Bruxelles. C'est un symbole ?
Bien sûr, oui. C'est la Wallonie, c'est ma seconde patrie après la Sicile, enfin, l'Italie. Faisons pas de séparatisme. Et c'est vrai que j'y suis depuis, tenez-vous bien, 1947.
C'est vrai.
Vous imaginez ?
Oui, vous êtes arrivé à quel âge d'ailleurs ?
J'avais 3 ans et demi. Mon père elle nous avait précédés, ma mère et moi, pour trouver un logis. Bon, il avait trouvé le travail, qui est un travail très dur, un travail pour lequel, rien que de l'imaginer, travailler à 800 mètres sous terre, dans une galerie, moi j'en frissonne. J'ai même pas voulu, toutes les fois qu'on m'a invité, descendre, aller voir. J'avais trop de respect et je voulais pas y descendre avec des photographes pour m'en faire une pub, quoi. Voilà. Donc, il a eu ce boulot que malgré tout, il considérait comme une manne, puisque la Sicile ne pouvait pas nourrir son homme à l'époque. Et donc là, le travail lui a redonné sa dignité. Aussi dur était-il.
C'était difficile d'être un Italien en Belgique à ce moment-là, dans les années 50 ?
C'était sans doute plus difficile qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui l'italien est complètement intégré à la Belgique. Nous avons eu une reine, la reine Paola, qui en était l'exemple parfait, je veux dire, de l'intégration. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu des vagues de racisme comme il y en a eu plus tard. Mais avec le recul, je me suis rendu compte petit à petit de la difficulté que ça a dû être pour mes parents. Ils étaient tout jeunes. Mon père avait 28 ans, ma mère 27. Ils ont quitté un pays de soleil pour venir dans les frimas du Nord. Nous étions dans des baraquements en bois. Et quand même, j'ose dire que nous avons eu de la chance d'arriver en Belgique, où le peuple est un peuple accueillant, bienveillant.
Alors, on est donc au centre Wallonie-Bruxelles, mais on est aussi dans une salle de cinéma. J'imagine que ça évoque quelque chose pour vous, parce qu'il y a eu une petite carrière d'acteur quand même, Adamo. Assez rapidement d'ailleurs, à l'époque.
Oui, ça tenait au fait que, je m'étais fait connaître en tant que chanteur en très peu de temps, en fait. Et plusieurs cinéastes, producteurs ou réalisateurs voulaient avoir le chanteur du moment. Ray Ventura m'avait proposé de jouer mon propre rôle, mais j'en avais discuté avec mon père, qui était toujours de bons conseils. Ça sert à quoi? Autant Lara voulait que je joue Lucien Lewand de Stendhal carrément. Ouais. J'ai lu le roman, ça m'a enrichi, mais c'était un personnage trop brillant pour le non-acteur que j'étais et que je suis toujours. Et puis finalement, il y a Michel Ardan, le producteur, qui est venu me voir à l'Olympia en présence de Bourvil. Mon père venait malheureusement de disparaître. Et le fait qu'il m'ait proposé un film dans lequel Bourvil m'adoptait...
Lui-même, chanteur-acteur.
Oui. Ouais. Voilà, je me suis laissé convaincre et j'ai passé avec Bourvil 2 mois qui ont été des leçons d'humilité, de philosophie de la part de Bourvil, d'humour, à Aix-en-Provence. Voilà, c'est une période qui est restée à toujours gravée dans mon esprit et dans mes souvenirs. Ouais.
C'était un partenaire généreux avec vous ?
Plus que généreux, parce que il sentait bien que j'étais débutant, que je n'avais aucune expérience, et il lui arrivait souvent, sans que je lui demande, mais comme pour me protéger sous ses ailes, quand on avait un moment de repos en attendant les prochaines scènes, il ouvrait le scénario et il me lisait ma scène. Écoute, moi je veux pas imposer quoi que ce soit, mais moi je la jouerais comme ça. Il me jouait vraiment ma scène, donc je calquais mon jeu sur ce qu'il venait de me montrer. Et malgré cela, je dois dire que c'est un des êtres les plus timides et réservés et introvertis. C'est étonnant, mais que j'ai connu.
Comment vous vous êtes trouvé en tant qu'acteur par la suite ? Parce que vous avez arrêté assez rapidement, en fait.
J'étais pas un acteur. J'étais moi-même. J'essayais d'être moi-même. J'avais pas de trucs. J'apprenais assez vite mes textes. Bon, quand il fallait improviser un tout petit peu, je pouvais le faire aussi.
Ah oui, ça va, oui.
Voilà.
Comment on le fait sur scène ?
osais te parler comme à une maman. Si j'osais te confier mes rêves d'adolescent, je te dirais que j'ai besoin de toi, de ton regard, du son doux de ta voix. Je te dirais que ce que je ressens est bien plus fort qu'un caprice d'enfant. Si j'osais te parler,
alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce coffret de CD 1962-1975. C'est une sorte de rétrospective, en fait, de la première partie de votre carrière, Salvatore Adamo. En 62, vous étiez qui ?
J'étais un étudiant à Saint-Luc, à Ramnichin près de Tournai, dans une école de technique de diffusion et de relations publiques. J'avais gagné un premier crochet radiophonique à Mons, au théâtre de Mons, donc le chef-lieu de la province du Hainaut. Bien sûr, j'étais passé à la radio, mais il n'y avait pas d'image, donc je pouvais me promener dans la rue sans que personne ne me reconnaisse. Et donc, j'étais un étudiant qui avait été troublé par ces choses qui lui arrivaient. Donc, heureusement, j'ai trouvé, on m'a signalé, cette école qui correspondait plus à mes aspirations, où on faisait de la radio en circuit fermé, de la télé en circuit fermé, on apprenait la sociologie.
Par rapport à ce Radio Crochet, vous chantiez une de vos chansons ou il fallait interpréter le tube de quelqu'un d'autre ?
Non, je chantais déjà une de mes chansons.
Et laquelle ?
Qui s'appelait Si j'osais, qui n'a été enregistrée que 2 ans après ma victoire, parce que quand le crochet radiophonique est passé sur antenne le 14 février 1960, il y avait un producteur qui m'avait entendu. Et tout ce qui l'intéressait, c'était que ma voix sonnait un peu comme celle d'un chanteur italo-belge qui a eu un succès mondial avec une chanson qui s'appelle Marina. Et donc, il est venu me trouver chez moi. La première chose qu'il m'a demandé, est-ce que vous avez des chansons en italien ? Et j'ai dit non, j'en ai pas. Mais moi, ça, en français, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai dit, écoutez, laissez-moi 15 jours... Je vois, je me tâtais. Et en effet, j'ai écrit 2 chansons qui ont figuré sur mon premier 45 tours, Perché e se pensiamè, dont on a vendu 517 exemplaires aux membres de ma famille et mes amis.
Et en 75, vous êtes qui ? Il y a eu plusieurs disques, il y a eu plusieurs Olympias. Vous êtes qui en 75, Salvatore Adamo ?
Mais en 75... J'avais changé carrément de milieu social. J'avais acheté une maison à mes parents. J'avais chanté un peu partout, de Je Map à Tokyo, en passant par
le Chili,
l'Argentine, l'Uruguay, l'Allemagne, beaucoup l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, où j'ai eu plusieurs numéros 1. Donc, j'étais quelqu'un qui avait le privilège de vivre en faisant ce qu'il aime, ce que je souhaite à tout le monde, mais qui ne s'appartenait déjà plus vraiment.
C'était difficile ?
Ça devenait difficile parce que j'avais déjà mon premier fils, qui était né en 69. J'avais des frères et sœurs, notre papa avait disparu.
En 66.
Donc j'étais chef de famille. Il y avait beaucoup, beaucoup d'avions, mais heureusement, tout ça était compensé de loin par le plaisir que j'avais d'être sur scène et que j'ai toujours. Et je le dis sincèrement.
Vous avez commencé à écrire et à composer, parce que vous êtes à l'époque, dans les années 60, on va dire, les Johnny et les autres, ils étaient interprètes. Vous étiez auteur, compositeur, interprète. Les premières chansons, elles arrivent quand ? Paroles et musique, pour vous ?
La toute première, je l'ai écrite à 4 ans et demi. J'avais reçu une guitare de mon grand-père, qui l'avait confiée à un oncle qui venait de Sicile, me l'amenait. Et pendant des années, je n'avais pas compris pourquoi mon grand-père m'envoyait une guitare. Et il n'y a pas longtemps, juste avant qu'elle ne disparaisse aussi, la sœur cadette de ma maman m'a dit que ma maman lui avait écrit une lettre dans laquelle elle disait qu'elle m'avait surpris devant un miroir avec un balai en train de me déhancher à la Elvis Presley. Et donc ma mère a eu l'idée, mon grand-père jouait un tout petit peu de la guitare, donc j'ai eu cette surprise, et à partir de là, je me suis dit, tiens, autant essayer de m'en servir. Et comme j'étais pas mauvais en français, que j'avais un prof qui m'encourageait beaucoup, qui écrivait lui-même des poèmes et qui m'encourageait à en écrire, j'étais dans une école de frères, des écoles chrétiennes, où les surréalistes étaient à l'index, Prévert, et donc ce professeur, Jean-Marie Vermeulen, m'avait conseillé des livres à lire en dehors de l'école, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai marié ma passion pour l'écriture et les premiers accords que j'avais appris grâce à un professeur allemand qui habitait Jemap, Werner, qui me disait à Damo, apprenez vos accords, sinon ça nerve moi. Ça veut dire ça m'énerve, quoi. j'ai gardé ça. Et voilà, donc j'ai commencé à chanter mes premières compositions à mes copains de classe et de GEC, jeunesse estudiantine chrétienne.
Chrétienne, oui, c'est ça.
Et je m'étais même fait éliminer d'un concours de chant au sein même de la GEC parce que j'avais osé chanter une chanson de Paul Delmet, Les mains des femmes, qui disait... Les poètes ont dit que les mains des femmes chantent la gamme comme les oiseaux. Ils ont chanté leurs petits doigts frêles, pareils aux ailes des papereaux. Et il paraît que c'était trop osé.
Ça, c'était trop osé
chez les frères.
Chez les frères à l'époque. Être chanteur, c'était pas véritablement un rêve à l'époque. J'ai lu que c'était plutôt d'être footballeur. Vous étiez plutôt bon?
J'étais pas mal.
Quel poste sur le terrain?
J'étais ailier droit, numéro 7. Ouais. J'ai commencé... comme minime, puis cadet, puis scolaire, et je suis arrivé jusqu'en junior, à 16 ans.
Vous auriez pu devenir professionnel ?
À l'époque, il me semble que le professionnalisme en football en Belgique n'était pas tout à fait implanté. On pouvait avoir un métier parallèle, mais j'aurais bien aimé jouer au football. Oui, c'est une façon de me réaliser aussi. Et je rêvais de Pelé. C'était Pelé à l'époque.
C'était Pelé à l'époque, ouais. Oui.
Je sais, tout est fini. J'ai perdu ta confiance. Néanmoins, je te prie de m'accorder ma chance. Si devant mon remords tu restes indifférente, on ne peut te donner tort. Mais sois donc indulgente au nom des joies que nous avons vécues, au nom de l'amour que nous croyons perdu. Sans toi, ma vie, le temps est si lourd, les heures et les jours. Sombre, sans espoir, sans toi, mamie.
. 1962, c'est la période yéyé. Comment vous vous sentiez dans cet environnement? Vous apparaissez, on le sait, sur cette fameuse photo du siècle en 66. D'abord, on rappelle, qu'est-ce que c'était que cette photo du siècle?
La photo du siècle, c'était Jean-Marie Perrier qui avait réuni tous les chanteurs qui avaient droit au chapitre dans Salut les copains, donc tous les chanteurs de la nouvelle génération. Bien sûr, j'étais de la nouvelle génération, mais j'avais la particularité d'avoir eu un arrangeur, Oscar Saint-Al, qui a eu l'idée de faire la jonction entre la nouvelle génération et l'ancienne. Je vous explique que moi, quand je faisais mes chansons à la guitare, mes maquettes, j'espérais avoir les mêmes arrangements que les chanteurs de mon âge, des guitares électriques et des batteries bien, bien présentes. Et Oscar Saint-Al a eu l'idée de rajouter des cordes qui étaient plus typiques des chanteurs...
De la génération précédente.
Ouais. Et donc, voilà, Maintenant, je me rends compte de ce que je dois à Oscar Sainte-Anne. Peut-être que sans lui, j'aurais pas trouvé mon identité musicale.
Mais vous étiez heureux de cette direction artistique à l'époque ?
Mais il y a des choses qui m'avaient déçu. Non, mais on ne sait pas à quoi ça tient. Le tout premier vrai succès discographique était Sans toi, mamie. Donc, j'avais cours de journalisme, comme je vous disais. Et nous avons en Belgique ce qu'on appelle un préfet des études. J'avais un rendez-vous pour enregistrer mon 5e disque. Donc, ma dernière chance, parce que les 4 premiers n'avaient pas marché du tout. Et ça tombait le jour de l'examen journalisme. Et donc, j'étais allé trouver le préfet des études, mais je n'ai pas eu l'idée, et ça c'est ma faute, d'en avertir le professeur. Et donc, je vais enregistrer mon disque, Sans toi, mamie, 3 instruments, guitare, basse, batterie. On me dit, parce que j'étais un grand fan de Paul Anka et de Nils Sedaka, on me dit qu'on rajouterait des cordes et des chœurs en mon absence. Et je repars confiant. Et le lendemain, je vais trouver le professeur de journalisme pour lui demander un rendez-vous pour passer mon examen. Et il me dit, mais il n'y a pas d'Adamo qui tienne, parce que j'avais une petite... On savait que je chantais.
Petite réputation.
Vous avez zéro. Et j'ai été tellement révolté que sur un coup de tête, j'ai abandonné les études. C'était en février 62. Et pendant un mois, j'attends l'enregistrement avec les cordes et les chœurs qu'on m'avait promis. Et je reçois le disque, le 45 tours, tel que je l'avais laissé. J'étais désespéré. Je m'apprêtais à chercher du travail. Et puis voilà que mon père, M. Donfu, et M. Debout, qui était mon premier producteur, ont eu l'idée de distribuer mon 45 tours dans tous les jukebox de la région.
C'est vrai qu'il y avait les jukebox dans la région.
Et un jukebox, c'était une petite radio locale.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Et donc, mon disque a démarré grâce au jukebox.
Sans passer par la radio au départ.
Pas de radio au départ. Et la première fois que j'ai été invité à l'RTBF, donc la radio nationale belge, c'était 2 présentateurs. Et la première chose qu'ils me disent, c'est « Vous savez, on nous a obligés à vous recevoir, mais nous, on n'aime pas votre disque. » Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit « Moi non plus. »« Quoi ? Vous non plus ? Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors, on me dit de faire de la promo. « Mais pourquoi vous n'aimez pas votre disque ? Vous avez d'autres chansons ?» Et je dis « Oui, j'en ai d'autres. De quel genre ?» Mais j'ai ma guitare dans ma voiture, si vous voulez, je vais la chercher.
J'avais perdu la tête, j'avais plus besoin de chapeau, plus de soucis qui végètent dans le jardin du cerveau. J'avais perdu la tête, je trouvais ça sympa, car j'attendais Brunette, Brunette reviendra. Un jour va ma Brunette, sans l'ami Cupidon. Elle dit j'aime plus ta tête, elle dit quand même pardon. Tu t'es payé ma tête, lui dis-je avec grand cœur. Elle me rendit ma tête, elle emporta mon cœur.
Et donc je leur ai chanté des chansons qui correspondaient plus à mes aspirations.
Plus rock'n'roll ?
Non, justement, plus, en toute, toute proportion gardée, plus côté Brassens. Ma tête, ma chambrette, j'ai raté le coche. Qui sont d'ailleurs dans
le coffret. Ouais.
Et ils étaient tellement surpris et épatés qu'ils m'en ont fait enregistrer 12 qu'ils ont passé la semaine d'après 2 par jour. Et ça a été la matière d'un 25 cm qui s'est appelé chanson non commerciale.
Et ça a été un tube énorme.
Oui.
Parce qu'au départ, non plus, ce n'était pas véritablement gagné, même par rapport à ce premier succès. C'était votre voix qui, quand même, créait quelques résistances à l'époque.
Oui, oui. D'ailleurs, malgré cette émission à laquelle je suis passé, il fallait, pour passer sur la RTBF, passer devant un jury. Et bon, j'y suis passé avec ma guitare et j'ai été refusé. Après, plus tard, j'ai appris, toujours en toute proportion gardée, que Brel avait été refusé, qu'Annie Cordier avait été refusée. Donc, j'estimais que j'étais dans le bon wagon.
Dans le bon wagon, oui, c'est ça. Il fallait faire partie du clan des refusés.
Oui.
Alors, par rapport à l'histoire de certaines chansons, donc « Sans toi, mamie », il y avait aussi un tube énorme qui a été « Tombe la neige ». Et j'ai pu lire que le Japon, vous avez, ça a été un énorme succès au Japon, ça l'est toujours d'ailleurs, mais qu'au Japon, on vous a fait faire absolument tout et n'importe quoi avec cette chanson.
C'est vrai que d'abord, elle existe en plus de 500 versions locales, de tous les styles, bossa nova, heavy metal. Et j'ai participé à un gag où, vous savez, au Japon, il y a des séries de samouraïs. Et lors d'un épisode, il y avait deux samouraïs qui luttaient à mort. Et je suis descendu du ciel en chantant Tombe la neige. On m'a envoyé le document il y a quelques semaines. Ça m'a bien fait rire.
Vous acceptiez tout ?
Non, j'avais quand même un certain discernement et je pense quand même avoir le sens du ridicule. J'ai dans la vie une bonne part d'espièglerie.
Oui, c'est le côté aussi italien, mais aussi belge, oui, surréaliste
j'aime
belge.
J'aime bien faire rire, mais j'aime pas le ridicule. Quoi.
On va vous retrouver, Adamo, dans quelques instants, juste le temps d'un titre de votre compatriote belge, Angèle, en duo avec Dua Lipa, La Température Monte, Fever, sur France Inter. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps en temps tes bras. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. I've got a fever, can you check? And on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Tell me what you wanna do right now.
Sur France Inter.
Puisqu'on est dans le cadre comme ça de repasser quelques chansons, il y a une chanson qui a marqué aussi toute une époque, pas facile d'ailleurs dans votre parcours, c'est presque une des seules, c'est Inch'Allah. À quel âge vous l'avez composée ? La musique et les textes. D'abord les textes, hein, toujours chez vous, la musique vient ensuite.
Oui, j'ai écrit le texte d'Inch'Allah en octobre 1966 lors d'une visite de Jérusalem avec mon manager, Charlie Marouani. Et ça a été pour moi une émotion pendant une heure et demie qu'a duré la visite de ces sites particuliers. Le Mont des Oliviers, le jardin Gethsemane, la piscine de Siloé. Tout ça m'a fait retourner à mes cours d'histoire sainte.
Oui. Ah ben les frères.
Je vous rappelle que j'étais chez les frères. Et voilà, quand je suis rentré à l'hôtel, la chanson était écrite dans ma tête. Entre-temps, bien sûr, en visitant, bien sûr, j'avais vu un papillon sur des fils barbelés. J'ai peut-être un œil particulier pour voir ces choses-là. J'étais aussi confronté à ce panneau danger frontière quand j'ai voulu entrer dans la chapelle de la Dormition, dont on dit, pour ceux qui croient, qu'elle a été érigée sur le lieu à partir duquel la Sainte Vierge est montée au ciel, encore une fois, pour ceux qui y croient. Donc, j'étais imprégné de toutes ces découvertes, et à l'époque, je le rappelle, Israël était attaqué de tous les côtés. Bien sûr, j'avais cette innocence de ne pas avoir eu de recul sur la chanson. J'allais avoir 23 ans.
Oui.
Et plus tard, une fois que j'étais interdit dans tous les pays arabes,
c'est ça, en fait.
Banni même au Liban, notamment, où j'avais chanté quelques jours avant, et même l'année d'avant, j'avais chanté deux fois dans la revue du Liban, on avait exhorté le peuple à brûler mes disques sur la place publique. Je n'avais pas compris cette violence d'un coup. Et sans doute, j'ai commencé à réfléchir, à savoir qu'est-ce qui a pu les choquer à ce point-là. Dans mon esprit, il y avait la carte de la Palestine, d'Israël. Et j'ai fait un tout sans tenir compte des dissensions terribles qu'il y avait entre les Israéliens eux-mêmes et les Palestiniens. C'était pratiquement une question d'appellation qui avait changé. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être n'ai-je pas fait suffisamment allusion à la souffrance du côté palestinien aussi. Donc, j'ai modifié la dernière strophe. Et finalement, la fin, où je faisais allusion à la Shoah elle-même, est devenue requiem pour toutes les âmes de ces enfants, ces femmes, ces hommes, tombés des deux côtés du drame, assez de sang, salam, shalom. Et là, j'exprime ce que je voulais exprimer, c'est une chanson de paix qui ne demande qu'une réconciliation, qui ne demande même pas que ces deux peuples s'aiment, mais qu'ils cohabitent ou qu'ils soient sur des terres juxtaposées ou contiguës, sans s'envoyer des missiles ou des bombes. Voilà.
Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui me remue paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, 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 Inch'Allah.
En famille, on parlait politique chez vous ?
On parlait beaucoup social. Mon père, qui travaillait, comme je vous le disais, en fond de la mine, qui avait pas mal de bagout, sans être officiellement syndicaliste, prenait la parole quand il fallait défendre la condition de travail de ses amis, de ses collègues, qui parlaient sans doute moins bien français que lui.
Une question par rapport à votre père, parce que votre père a été, pendant les trois premières années de vos succès, vous a accompagné dans ce succès, en fait.
Complètement.
En 66, il a vu la naissance de ce succès et il a été, d'une certaine façon, votre manager. Une fois qu'il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait qu'à l'époque, quand on est jeune, on n'est pas forcément au courant de toutes les tractations, les contrats. Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous avez été bien accompagné, Adamo? Parce que bon nombre se sont fait gruger à l'époque, parmi vos confrères.
J'ai eu un bon manager qui était Charles Marouani, mais je n'avais plus la main de mon père sur mon épaule. Et parce qu'avant d'arriver jusqu'à Charles Marouani, mon père m'avait déjà donné son avis au préalable. Donc je savais plus ou moins ce que nous allions faire.
D'accord.
Bon, là, j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour Charles Marouani, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans. Sans contrat.
Sans contrat?
Sur une parole donnée,
oui. Waouh.
Voilà.
Quelque chose qui est impensable aujourd'hui, hein.
Enfin, c'était comme ça. À ouais. Et voilà. c'est vrai qu'il y avait d'autres impresaris, managers, hein, qui faisaient plus peut-être dans les brouffes, qui donnaient plus d'écho à certaines choses que leurs artistes faisaient. Charlet était discret et excessivement honnête. Et je ne regrette pas d'être passé par lui. Mais, par exemple, quand je suis passé 3 fois au Carnegie Hall, ça ne s'est pas vraiment su chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, pour changer le regard qu'on pouvait avoir sur vous, qui étiez une star internationale. Je lisais des choses qui sont passées au Japon, au Chili aussi. Quand vous arrivez au Chili, on porte la voiture dans laquelle vous êtes. Enfin, j'ai lu des choses de rockstar, en fait, Adamo, pour l'époque.
J'ose pas le dire moi-même.
Ah bah moi, je vous le dis. C'était vraiment de l'ordre de la rockstar. Les chansons, par exemple, qui étaient célèbres au Chili, c'était les mêmes qui étaient célèbres partout, où il y avait des particularités selon les pays ?
Il y a des particularités, oui. Au Chili, par exemple, une de mes chansons les plus connues, qui a été aussi numéro 1 en France, mais qu'on a un peu oublié, c'est En bandoulière, En bandolera. Il y a une chanson comme Elle, qui était en phase B, enfin, c'était un extended play, il y avait 4 titres. Il y avait La Nuit, qui est un gros tube en espagnol.
En France aussi, elle était destinée à Johnny Hallyday au départ.
Oui, voilà.
Heureusement que vous l'avez gardée pour vous.
Oui. Il y avait Tenez-vous bien en français, mais qui est devenu Mi Gran Noche en espagnol et qui a été reprise par un des chanteurs les plus populaires hispanophones, c'est Raphaël. On en a même fait un film il y a 2 ans, Mi Gran Noche. Et dans les Simpsons version Amérique latine, il y a un extrait de Mi Gran Noche. Et la chanson Elle, tout ça sur le même disque, a été utilisé 2 fois par Nanni Moretti. Dans 2 films, dans son tout premier film qui est Ecce Bombo et le Caïman, où il a exprimé la dent qu'il avait contre Berlusconi. Ouais. Et donc il y a des chansons particulières comme en Allemagne. C'est une de mes chansons les plus connues. S'intitule La vieille d'Idole et les oiseaux. Et c'est une histoire qui m'est arrivée à Paris au jardin des Tuileries. J'étais avec un photographe allemand qui cherchait un sujet. Et nous sommes entrés dans le parc et on a vu de loin une dame, comme il y en a un peu partout dans les parcs, qui donnait du pain aux petits oiseaux. Il me dit, la dame est entourée d'un nuage d'oiseaux. Il me dit, assieds-toi là, ça va être une belle photo. Je m'assieds et naturellement les oiseaux s'envolent. La dame commence à m'engueuler. Vous avez vu ce que vous avez fait? Ils sont partis. Et moi, bêtement, je lui dis, mais madame, donnez-moi quelques bouts de pain, vous verrez, ils reviendront. Mais pas du tout, dit-elle, c'est pas ce que vous croyez. Ils viennent pour moi.
C'est super beau en même temps comme idée.
C'est d'une poésie.
Ouais.
Et j'insiste. Elle me donne du pain. Je tends la main et les oiseaux reviennent. Et je vois la dame se lever, les larmes aux yeux. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je m'en suis voulu. Dans la chanson,
je connais la fin.
Oui, mais racontez-la.
Bah, je m'en souviens. Je crois que vous retrouvez cette femme au bord de la Seine, et cette fois-ci, elle donne à manger à des poissons. C'est celle-là, c'est cette chanson.
Voilà. Après que j'ai craint qu'elle fasse une bêtise.
Oui,
c'est
la Seine.
Et, ouais, et cette chanson en Allemagne est très connue. Alors qu'en en France, je sais qu'il y a un chauffeur de taxi qui la connaît parce que un jour il m'en a parlé. J'adore votre chanson. La vieille idole. Ah bon?
Vous êtes allemand?
Non, pas du tout.
Chauffeur de taxi. Et le barbu sans barbe, c'est connu partout, ça? C'est très marrant. Je ne la connaissais pas, c'est en écoutant. Il y en a plusieurs comme ça.
Des chansons surréalistes.
Exactement, oui.
Mais ça vient de la Sicile, dont je suis originaire, et de la Belgique. Ils ont un peu le même surréalisme.
Les poilus sans poils,
oui.
Le barbu sans barbe. Voilà. Une question aussi par rapport à une autre chanson qui est un inédit que j'ai découvert dans l'album, c'est Ma vieille, ma guitare. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Une chanson de 66.
Oui, ma vieille, ma guitare. Bien sûr. C'est une chanson dont je me demande encore aujourd'hui pourquoi nous ne l'avons pas sortie. Et j'ai commencé à trouver un début d'explication.
Parce qu'elle est sur le dernier disque et c'est un tube en fait.
Elle a le potentiel d'un tube avec des oreilles d'aujourd'hui. Parce qu'il y a dans la nostalgie d'aujourd'hui un retour à des orchestrations des années 50, et peut-être que dans les années 60, les gens qui s'occupaient de moi ont dû trouver qu'elle ressemblait trop aux sonorités de la génération d'avant.
Au André Claveau et compagnie.
Exactement.
D'accord.
Mais quand je l'écoute aujourd'hui avec ce côté, la guitare Django Reinhardt, et voilà, c'est une chanson pour laquelle je dirais que j'ai la satisfaction du travail bien fait. Une chanson d'artisan, quoi. Et je l'ai chantée à mon dernier concert appelé Elle. Elle a eu une ovation que je n'attendais pas vraiment.
Ma vieille, ma guitare, je veux plus de ton cafard. J'ai envie de chanter, j'ai envie de rire. Arrête tes sanglots, joue en allegro. Il faut l'oublier, même si ça déchire. Joue plus de mes amours, je veux plus vivre à rebours. Moi j'ai plus de souvenirs, moi j'ai plus de mémoire. Ma vieille, tu t'égares, chagrin, y en a marre. Arrête tes soupirs, change de répertoire. Qu'est-ce qui prend donc à jouer la chanson que je lui chantais quand elle m'aimait? Je te demande pardon, après tout, à quoi bon? Joue-la si ça te plaît. Ah, si tes yeux n'était pas aussi bleu, de quelle couleur pourrait être le ciel? Je demande à Prévert, je demande au bon Dieu, ils me disent qu'il n'y aurait pas de ciel.
Il y a une autre chanson qui m'a intrigué et je me suis demandé, mais je vais pas vous donner le titre. D'abord, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des chansons, puisque vous avez tout réécouté, des chansons que vous reniez ou dont vous n'êtes pas fier et que vous ne feriez pas aujourd'hui?
Je pense savoir que vous faites allusion à J'ai pas demandé la vie, peut-être.
Parce qu'il y a le mot euthanasie qui apparaît.
Oui.
Et on est en 64-66.
Oui.
C'est très tôt, quoi.
C'est vraiment la seule chanson que je regrette d'avoir écrite. Sans doute, je sais pas, j'avais lu un bouquin où, qui devait être très noir. Et ce qui m'a surtout presque traumatisé à l'époque où je l'ai sorti, c'est qu'il y avait le directeur de la firme des disques en Belgique à l'époque m'avait dit que c'était sa chanson préférée. Ce qui m'avait étonné. Et 6 mois après, excusez-moi, il se suicidait. J'ai culpabilisé. Alors que je ne devais pas, mais c'est pas vrai. Il avait déjà la pensée en lui, puisque déjà il m'avait dit que c'était sa chanson.
Oui, tout à fait. Il y avait un signe quand même, véritablement.
Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, malheureusement.
Adamo, j'aimerais qu'on parle aussi du son que vous avez travaillé pendant toutes ces années, mais pas simplement du son aussi, des mélodies que vous aviez. Vous êtes belge, on le sait, d'origine italienne, plus précisément sicilienne. Et moi, je me suis demandé ce que vos chansons devaient à la Sicile, c'est-à-dire même, pas simplement au niveau des thèmes qui sont évoqués, mais au niveau de la musicalité.
Mais je vais vous faire un aveu, je pense que 7 chansons sur 10 chez moi sont d'inspiration, si pas sicilienne, mais napolitaine ou italienne. Tombe la neige que vous évoquiez, vous enlevez le texte qui parle de neige, ou en Sicile on n'en voit pas beaucoup, mais c'est une mélodie en mineur, italienne, sicilienne même, Inch'Allah, c'est une mélodie italienne en mineur. La nuit, une chanson, une mélodie italo-hispanique, d'après les harmonies. Mais la Sicile, pardon, a aussi été occupée par des Espagnols. Donc, il y a aussi un côté arabisant. Donc, Inch'Allah, bien sûr, c'est, comme je vous disais, c'est italien, mais aussi un peu arabisant.
Oriental, en effet, oui.
Voilà. Donc, et la chanson napolitaine, qui est d'une richesse qu'on ne soupçonne pas, dans tous les états d'âme, dans l'humour aussi, dans le côté social. Mais si vous avez l'occasion d'écouter l'anthologie de la chanson napolitaine par Roberto Murolo, juste à la guitare, qui est magnifique et qui vous fait comprendre que la maman de Georges Brassens était napolitaine. Et que pas mal de tarentelles, tchipoum, 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 tchipoum.
Ah bah, c'est Brassens, du... bah voilà, oui.
Ben, c'est le rythme le plus populaire napolitain.
Tesoro mio, allora vuoi sapere perché hai gli occhi blu e tu no? Figlio mio, vieni qua. Assettete su premore noce e tu conto. Però non sogno sicura che mi crede. Quando era nica, io magari gli alluccio a colore roca ne cacurro con Mattia. Io stavo in aria e balbo, nava ne da scalinate. La mia casa non si vedeva tanto il cielo. E sì, una volta...
Puisqu'on parle de mère, quelle était la chanson ou quelle serait la chanson que vous associez à votre mère?
Maman est un des mots les plus difficiles à prononcer dans une chanson. Par pudeur, par respect. Et dans mon dernier album, il y a une chanson qui s'intitule « Ma mère disait ». Au début de laquelle j'ai enregistré une amie qui a la voix de ma mère et qui est de Comiso, qui est aussi le village de ma mère.
D'origine, oui.
Donc la voix et l'accent. Et elle parle pendant une petite minute avant que ne commence la chanson. Et je pense que c'est la chanson qui définit le mieux ma mère.
Ma mère disait qu'en regardant le ciel, un jour j'aurai les yeux bleus comme elle.
Qu'est-ce qu'elle écoutait, elle ?
Ben, elle écoutait les chansons des années fin 40. Par exemple, J'attendrai.
Par Inaketti ?
Non, elle l'écoutait par une chanteuse italienne et ça s'appelait Tornerai. Tornerai. Et comme Le chaland qui passe. Mais c'est une chanson italienne aussi qui est Parlami d'amore, Mario. Toutes ces chansons-là des fin 40. Et j'ai une espèce de fil. Si je tire dessus un écheveau de chansons des années fin 40, début 50, que je connais absolument par cœur. Et même en français, chansons de Piaf, de Lucienne Delisle, d'Yvette Giraud, de Jacqueline François, d'André Claveau. Voilà, inconsciemment, elles sont restées en moi.
Une dernière chose, Adamo, que j'aimerais élucider avec vous, c'est cette collaboration que vous auriez dû mener, et je ne sais pas à quel titre et sous quelle forme, avec Dino Buzzati.
Lors d'une interview en Italie, on m'avait demandé mes auteurs préférés, et j'ai dit en toute sincérité, Dino Buzzati, Le désert des Tartares, ses nouvelles aussi, L'histoire du cas, et... Un amour aussi, et c'était à la radio. Et il se fait que Dino Buzzati, il a entendu cette interview. Et il m'a écrit. Il avait pris l'histoire d'Eurydice et Orphée en dessinant lui-même. Parce que c'était un dessinateur aussi de Fumetti. Et le titre était Poème à Fumetti.
Fumetti, c'était poème, une petite bande dessinée. Hein.
Poème bulle. Et il m'a fait une très longue dédicace, me disant qu'il était touché d'avoir entendu que je l'avais cité. Et il m'invitait, si la lecture de l'histoire qu'il avait écrite en vers, donc très possiblement mise en musique, s'il m'inspirait quelque chose, de lui faire signe qu'il serait ravi. Et le voyage suivant à Milan, je l'ai rencontré. J'ai déjeuné avec lui. La matière était là pour faire une comédie musicale, vraiment. Et il m'a dit, ça me flatte beaucoup, j'avais commencé à donner un accord, je ne sais plus quel musicien classique italien qui devait en faire un oratorio, mais je vais essayer d'annuler, enfin de lui faire comprendre qu'il voulait me donner la priorité. Malheureusement, il est décédé quelques temps après. Et dans ce genre d'histoire aussi, et des rencontres que malheureusement le destin a voulu annihiler, enfin, j'avais été sollicité par André Unebel,
le réalisateur.
Réalisateur, pour tourner un roman de Claude Guimard, Rue du Havre, avec Michel Simon. J'en ai fait une chanson qui s'appelle Gagner du temps. C'est l'histoire d'un vieillard qui vend des billets de loterie dans la rue du Havre Et tous les matins, il voit passer une jeune fille toute seule. Et deux minutes après, il voit passer un jeune homme tout seul. Et dans son esprit bienveillant et poétique, il trouvait que ces deux jeunes gens devaient se rencontrer, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et de jour en jour, il essaye sans réussir. Et puis, un jour, c'est toujours vers 9h du matin, 9h et 9h02, il traverse la rue, je ne sais plus pourquoi, et il est renversé par une voiture. Il décède. La jeune fille de 9h s'arrête pour voir ce qui s'était passé. Et deux minutes plus tard, le jeune homme de 9h02 s'arrête aussi à côté de la jeune fille et lui demande « Que s'est-il passé ?» Et ils se sont parlé.
Et la rencontre s'est faite sur la mort de...
Voilà. Et donc j'ai rencontré Michel Simon. Et là aussi, Michel Simon est parti avant le début du tournage.
Adamo, on va se séparer dans quelques instants.
Sur une note plus gaie, quand même.
Sur une note plus gaie, j'aimerais savoir ce que vous écoutez aujourd'hui. Qui vous écoutez ? Si vous me dites Arnaud, ça ne marchera pas. Je le sais. Si vous me dites Camille, ça ne marchera pas non plus. Non. Je le sais.
J'écoute. Il y a des écoutes qui sont un peu aléatoires. Je vais sur Internet, je découvre Gaël Faye. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup son écriture. Sinon, j'ai besoin d'écouter mes maîtres. Que ce soit Brassens, Brel, Ferré, que j'ai découvert sur le tard. Ferré, je ne connaissais de lui que ses grands succès.
Oui, la môme.
Avec le temps, c'est extra. Puis j'ai découvert La mémoire et la mer. Toi qui ne dis jamais rien, c'est des chefs-d'œuvre absolus. Guy Béard, qui m'a donné aussi une façon de voir les choses un peu surréalistes. Par exemple, une chanson comme Le Chapeau, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau, j'ai dû fouiller le désert d'Arabie parce qu'il est en poil de chameau. Et cette forme d'écriture surréaliste.
Oui, tout à fait. Oui.
Dans Le Barbu sans barbe, c'est un peu
Le Barbu sans barbe, c'est vraiment
ça. Dans ma tête aussi. Mais avec ça, je vais au hasard.
Juste une chose, quand vous êtes à Paris, vous faites quoi ? Bon, à part les entretiens.
J'attends le moment où je pourrais profiter vraiment de Paris. Parce que j'habite Bruxelles, et quand je viens à Paris, bien sûr, il y a les entretiens, il y a la promo, les concerts. Mais j'ai le privilège d'avoir un pied-à-terre à Paris, et il faut que je fasse la part des choses et que je me ménage des périodes de plaisir. Voilà.
Ah ben, il serait temps quand même.
Il serait vraiment temps. J'ai l'impression que je ne respecte pas cet aspect de la vie qui est primordial aussi.
Merci à vous.
Merci à vous, Laurent. Merci.
Merci.
Respire. 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 Encore l'insomnie. Sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi. Miroir, salle de bain. Triste face à face. Angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire. T'as le souffle court, respire. Facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps.
Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfant? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence.
Respire, signé Gaël Faye, plébiscité par Salvatore Adamo. C'est un extrait de son deuxième album, Lundi Méchant. Respire, un impératif catégorique en cette soirée de Noël. Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club, spécial Salvatore Adamo. Son coffret 1962-1975 est disponible chez Piace. Côté Club, ce soir, c'était Juliette Medeviel à la réalisation, Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rosic à la programmation, avec bien sûr la collaboration active de Marc Gauthier et Muriel Pérez au playlist. On va se retrouver lundi. Lundi avec Angélique Kidjo, Richard Minier et Bonkana Maiga. Et pour le live, Marion?
Avec Samba de la Muerte, un nom exotique pour une pop normande qui prend les couleurs de l'Afrique.
Allez, Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir.